18h. L'heure de retrouver les informations avec vous, Antoine Mercier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Nouveau point à l'instant du procureur de la République de Paris, François Molins, en charge de l'enquête de l'attentat de Nice. Le tueur semble avoir envisagé son passage à l'acte plusieurs mois avant donc de commettre l'attentat et bénéficier aussi de soutien et de complicité. On entendra un extrait de cette conférence de presse qui vient de se dérouler et le compte-rendu d'Anne Fauquemberg. Le rapport d'autopsie de l'homme de 24 ans dont le décès avant-hier avait déclenché des échauffourées dans le Val d'Oise montre, selon le procureur de la République, que le jeune homme souffrait d'une infection très grave et n'a donc pas subi de violence, comme certains membres de la famille ont pu le dire. Précision avec Antoine Marette. Le ministère syrien des Affaires étrangères assure que les frappes qui ont fait plusieurs dizaines de victimes civiles ont été menées par les forces françaises le lundi et par les forces américaines le mardi. Des militants syriens appellent à manifester dimanche à travers le monde pour protester contre ces bombardements de la coalition. François Hollande, rentré de Dublin cet après-midi, reçoit à l'Élysée la première ministre britannique Theresa May, qui, elle, revient de Berlin, dossier suivi par Cécile de Carvaz-Doué. Et pendant ce temps, à Varsovie, les dirigeants du groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, se prononcent pour le renforcement du contrôle des parlements nationaux sur les décisions prises par l'Union européenne. Explication de Bruno Caden dans le grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Eh bien, on parlera, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Turquie après le coup d'État raté, la Grande Purge, avec nos invités Didier Billon, Ahmet İnsel, Emre Demir et Marc Semo.
Il y a juste quelques minutes, le procureur de la République de Paris, François Molins, donnait des précisions sur l'enquête, donc une semaine après l'attentat de Nice, et notamment sur ces cinq suspects qui ont été présentés aujourd'hui au juge antiterroriste en vue d'éventuelles mises en examen. Le tueur semble avoir, selon François Molins, projeté l'attaque de Nice plusieurs mois avant son passage à l'acte. On écoute un extrait de cette intervention.
À l'issue de leur garde à vue, ont été déférés à la justice ce matin, peu après 6h, 5 personnes, 4 hommes, et une femme. Ces 4 hommes et 7 femmes ne sont pas connus, je le précise, des services spécialisés de renseignement. Mon parquet a ouvert à la mi-journée une information judiciaire des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Les investigations menées depuis la nuit du 14 juillet dernier n'ont en fait cessé d'avancer et ont permis non seulement de confirmer plus encore le caractère prémédité du passage à l'acte mortifère de Mohamed Laouesh Boulel, mais également d'établir que ce dernier avait pu bénéficier de soutien et de complicité dans la préparation et la commission de son acte criminel.
Voilà quelques précisions donc de François Molins, Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écouter également le procureur de la République de Paris. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau en synthétisant ?
Eh bien, il confirme, le procureur Molins, les soutiens et les complicités dont a bénéficié Mohamed Laouesh Boulel. Les 5 suspects vont être placés en détention provisoire et être mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 5 suspects, 4 hommes et une femme. Aucun d'entre eux n'était connu par les services antiterroristes. Les liens entre ces personnes et Mohamed Laouesh Boulel sont loin d'être anodins pour au moins 3 d'entre eux, le couple d'Albanais et l'homme qui s'appelle Ramzi A, des personnes qui auraient apporté une aide logistique importante au tueur. Le procureur a aussi donné beaucoup de détails qui démontrent de nouveau la préméditation de l'acte, notamment des images de captagon retrouvées sur l'ordinateur de Mohamed Laouesh Boulel, le captagon qui est un produit stupéfiant utilisé par les djihadistes, des clichés également du feu d'artifice il y a un an à Nice, ou encore cette une début 2016 de Nice Matin, où il est évoqué un fait divers dans lequel un véhicule fonce volontairement sur un restaurant.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. En ce qui concerne le dispositif de sécurité qui avait été déployé le 14 juillet sur la promenade des Anglais, François Hollande a promis aujourd'hui vérité et transparence. Bernard Cazeneuve avait annoncé peu avant midi qu'il demandait à la police des polices une évaluation technique du dispositif de sécurité, évaluation dont les résultats devraient être connus dès la semaine prochaine. A signalé encore une opération antiterroriste menée tout à l'heure par la DGSI et le raid à Argenteuil dans le Val d'Oise. Un djihadiste présumé Meda Kriket avait été interpellée, on s'en souvient, en mars dernier à Boulogne. Des armes, donc 5 fusils d'assaut Kalachnikov, avaient été retrouvés dans son appartement à Argenteuil. Il n'y a pas plus de précision pour l'instant sur cette opération qui est encore en cours. À signaler encore une opération antiterroriste menée cet après-midi par la DGSI et le RAID donc à Argenteuil, dont je viens de vous parler. Il y a aussi à Brasilia la police brésilienne qui affirme avoir arrêté 10 membres d'un groupe de jeunes qui planifiaient des attaques pendant les Jeux Olympiques, qui débutent dans 15 jours maintenant. Les suspects avaient juré loyauté à l'organisation État islamique et se préparaient à acheter des armes, donc selon la police brésilienne. On passe au rapport d'autopsie maintenant de cet homme de 24 ans, dont le décès avant-hier avait déclenché les échauffourées pendant 2 nuits dans le Val d'Oise. Eh bien, ce rapport d'autopsie vient d'être rendu public par le procureur de la République de Pontoise et il montrerait, selon le procureur, que manifestement, cette personne n'avait pas subi de violence comme certains membres de sa famille avaient pu le dire. Antoine Maret, est-ce que cette nouvelle est de nature maintenant à ramener le calme dans le Val d'Oise?
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce rapport fait voler en éclats la thèse de la bavure. Adama Traoré avait une infection très grave qui touchait plusieurs organes. Le médecin légiste conclut que sa mort semble être médicale et le contexte de très grande chaleur de mardi a pu jouer un rôle dans son décès. Le rapport est formel, il n'y a pas de traces de violence significative, juste quelques égratignures. Des examens complémentaires, notamment bactériologiques et toxicologiques, vont avoir lieu, mais d'ores et déjà, la thèse de la bavure défendue par les proches d'Adama Traoré est sérieusement mise à mal. Rappelons que le jeune homme s'est interposé au moment de l'arrestation de son frère. Celui-ci affirme l'avoir vu ensuite au sol, à la gendarmerie de Persan, menotté dans le dos, sans vie, avec du sang sur le visage. Selon lui, Adama Traoré a tout simplement été tabassé par les gendarmes. Et c'est cette thèse qui a été à l'origine des 2 nuits de violence à Beaumont, Persan, mais aussi Bruyères. Une thèse contredite par le rapport d'autopsie. Cela va-t-il apaiser la colère des jeunes qui ont affronté les forces de l'ordre depuis mardi? On peut l'espérer, mais on peut aussi craindre que la défiance à l'égard des forces de l'ordre et la prolifération des théories du complot n'alimentent un peu plus le sentiment d'injustice.
Antoine Maret, merci. Et pendant ce temps, à l'Assemblée, prolongation pour 6 mois de l'état d'urgence définitivement voté par le Parlement, ainsi que dans la foulée d'ailleurs le projet de loi travail définitivement adopté également, faute de motion de censure. Après le 49-3, le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, annonce ensuite devant un hémicycle quasiment vide la fin de la session extraordinaire du Parlement. Après l'instauration de l'état d'urgence en Turquie, Ankara annonce cet après-midi qu'elle suspend la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où cela ne contrevient pas à ses obligations internationales. C'est une annonce du vice-premier ministre turc donc qui ajoute « tout comme la France l'a fait après les attentats de novembre 2015 ». L'article 15 de la CEDH reconnaît au gouvernement, dans des circonstances exceptionnelles, la faculté de déroger de manière temporaire, limitée et contrôlée à certains droits et libertés qui sont garantis par cette convention. Cette dérogation prémunit donc la Turquie apparemment contre toute éventuelle condamnation, alors que de vastes purges sont toujours en cours dans l'armée, la justice, la magistrature, les médias et l'enseignement après le coup d'État raté de vendredi dernier. Commentaire sur la situation du président syrien Bachar el-Assad. Le président turc exploite la tentative de coup d'État pour mettre en œuvre, je cite, le programme extrémiste des frères musulmans. Fin de citation. Des militants syriens appellent à manifester ce dimanche à travers le monde après des raids de la coalition internationale qui était emmenée donc par Washington et qui ont fait avant-hier des dizaines de morts, parmi eux des civils, dans des zones tenues par des rebelles près de Minbej. C'est un bastion du groupe de l'État islamique. Le ministère syrien des Affaires étrangères assure que la frappe de mardi qui a touché un village s'appelle Toukhan avait été menée par les forces françaises et que celle de lundi avait été conduite par les forces américaines. Le président de l'opposition syrienne avertit de son côté que la mort de ces civils dans des opérations militaires de la coalition risque fort de devenir un outil de recrutement pour des organisations terroristes, pour donc l'État islamique, Nabila Hamel.
Oui, et il serait donc contre-productif. Alors on comprend pourquoi plusieurs mouvements de l'opposition syrienne ont vite réagi. La CNS demande donc la suspension des frappes en attendant les conclusions de l'enquête sur ces morts civiles. Il s'agit, dit-elle, d'aboutir à un changement des procédures pour les opérations futures et de mettre en cause les responsables de telles violations majeures. L'armée syrienne libre parle, elle, de massacres choquants qui ne ne doit nullement être justifié par le combat contre le terrorisme. Les FDS, les Forces démocratiques syriennes, autre mouvement armé très actif à Manbij depuis la fin mai, pour tenter de reprendre la ville aux djihadistes, leur donnent donc un ultimatum de 48 heures pour quitter la zone avec leurs armes individuelles. Un ultimatum donc, les FDS, qui comptent des combattants kurdes et arabes proches de la coalition internationale, affirment accepter cette initiative, cet ultimatum, parce qu'il y a eu ces frappes qui ont touché lundi et mardi la population de Manbij, et parce que, je cite, l'EI utilise les civils comme des boucliers humains. Bouclier humain, le mot est lâché. Il y aurait eu 56 morts, dont 11 enfants, selon les calculs de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pas de réaction encore du côté de la coalition internationale. François Hollande dit ne pas avoir de retour après les accusations du régime syrien qui parle de bombardement, donc de l'aviation française et américaine.
Merci Nabila Hamel. François Hollande est rentré de Dublin cet après-midi pour recevoir à l'Élysée la première ministre britannique Theresa May, qui elle est de retour de Berlin. En Irlande, le chef de l'État a de nouveau souhaité que le Royaume-Uni notifie le plus rapidement possible sa décision de sortir de l'Union européenne, et il affirme même vouloir demander directement à Theresa May de lui expliquer les raisons de son manque d'empressement. Cécile de Carvaz-Doué.
Il faudra qu'il y ait des justifications, a prévenu le président français en visite aujourd'hui à Dublin. Avec son homologue irlandais, ils se sont donc accordés à demander que la sortie de l'UE du Royaume-Uni se fasse le plus rapidement possible pour éviter toute période d'incertitude. Pour l'instant, la Banque Centrale Européenne assure que les marchés résistent de manière encourageante au Brexit, mais ni la chancelière allemande Angela Merkel, ni François Hollande ne sont pour autant favorables à des négociations interminables avec la Grande-Bretagne, partenaire économique de poids pour l'axe franco-allemand. Ce que disent les traités, c'est qu'une fois déclenché l'article 50 des traités européens, les négociations avec le Royaume-Uni prendront maximum 2 ans. La chancelière allemande a accepté hier que Theresa May prenne jusqu'à la fin de l'année pour préparer la négociation. Mais le président Hollande, de son côté, risque de se montrer beaucoup plus ferme en recevant Theresa May ce soir. Pas question de permettre au Royaume-Uni de négocier un statut spécial de libre-échange avec l'Europe avant le début des négociations. Il faut qu'il y ait un équilibre des droits et des obligations, a expliqué le président français. En clair, pas d'accès au marché unique sans libre circulation des biens, des capitaux, des services et bien sûr des personnes. Or, c'est justement cette libre circulation des personnes que les Brexiteurs ont rejetée lors du référendum. La tournée européenne du président français visait donc sans doute à obtenir un soutien sur cette ligne de fermeté vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Pour faire plier François Hollande, la première ministre britannique a dans la main de son côté une autre épine du Brexit. La Grande-Bretagne est effectivement le partenaire principal de la France pour toutes les opérations de défense et de sécurité européenne.
Cécile de Carvaz-Doué. Et pendant ce temps, à Varsovie, sont réunis les dirigeants du groupe dit de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Le premier ministre hongrois Viktor Orban affirme qu'après la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, celle-ci n'était plus un acteur global, mais simplement un acteur régional, tandis que la première ministre polonaise estime que l'Union est certes une valeur, mais dans sa forme institutionnelle actuelle, elle ne répond pas aux attentes des Européens. Les 4 pays donc ont arrêté les orientations communes, le respect des libertés fondamentales qui sont défendues par l'Union européenne, mais aussi le renforcement du contrôle des parlements nationaux sur les décisions qui sont prises par l'Union. Dans le débat donc qui est ouvert maintenant partout en Europe sur le Brexit, les pays de l'Est de l'Europe semblent bien décidés à faire entendre leur voix. Bruno Cadenne.
Déjà perceptible lors du sommet de l'OTAN à Varsovie, la fracture entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est est de plus en plus visible au sein de l'Union européenne. Au-delà des divergences très vives sur la directive des travailleurs détachés, c'est l'avenir de l'Union européenne qui divise profondément. Les tentatives occidentales de relancer l'UE à 6, les 6 pays d'origine, hérissent les nouveaux membres, mais c'est surtout le Brexit et la tentation franco-germano-italienne de le gérer qui ne passe pas en Europe centrale. Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie vont donc présenter leurs propositions dans les jours à venir pour relancer l'Union européenne. Des propositions, vous l'avez dit, à la fois souveraines comme le fait de mettre en avant les parlements nationaux, mais aussi de type fédéraliste pour défendre le marché unique et la libre circulation des biens, capitaux, services et personnes, car les 4 de Visegrad doivent également sans tenir compte de leurs opinions publiques, qui restent les plus europhiles et de loin des 27. Dernier signe de cette incompréhension entre Est et Ouest, la mini-tournée européenne de François Hollande a été écourtée à cause de l'attentat de Nice. Le président français a maintenu ses visites à Lisbonne et Dublin, mais reporté à la rentrée celle de Bratislava et Prague. Pourtant, la Slovaquie préside le Conseil européen pour les 6 mois à venir. Et les pays de l'Est mobilisent pour la contre-attaque. La semaine dernière, les 4 de Visegrad ont accueilli les 4 des Balkans, Roumanie, Bulgarie, Croatie et Slovénie. Ne manque plus que les 3 pays baltes pour que le bloc soit complet.
Bruno Cadenne, merci. Donald Trump prononce ce soir un discours très attendu en clôture de la Convention républicaine de Cleveland, allocution où il va accepter donc la nomination comme candidat républicain à la présidentielle arrachée aux primaires du printemps et ratifiée avant-hier par environ 2500 délégués. Et puis les autorités et athlètes russes dénoncent aujourd'hui leur exclusion des Jeux olympiques de Rio. Ils fustigent une décision politique et criminelle, mais le CIO doit encore prendre une décision définitive à ce sujet ce dimanche. La météo a émis un bulletin alerte orange, fortement pluvieux dans 12 départements, des Pyrénées au Massif central, un temps plus calme ailleurs demain, avec un ciel variable, davantage de soleil sur le sud-est, des températures de 14 à 23 degrés. C'est la fin de cette édition réalisée avec Jean-François Braun. Le prochain journal est à 22h avec Antoine Dénécher.